Actes des Apôtres, chapitre 20, 23 à 24. Actes des Apôtres, chapitre 20, 23 à 24. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit ceci: et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Donc l'apôtre explique que les nouvelles sont négatives. En général, aujourd'hui, nous nous annonçons de bonnes nouvelles. On dit mais que cette année, l'année qui suit, qui vient, soit bénie, que tu prospères. Les nouvelles, en général, le 31 sont positives. Et là, nous lisons, pour l'apôtre Paul, les nouvelles sont négatives. Et ça ne vient pas de n'importe qui, ça vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, le prévient qu'il y aura des tribulations, des difficultés à venir. Et on se souvient quand Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, lui-même, le Seigneur Jésus, il a dit après à Ananias: va t'occuper de cet homme-là. Cet homme-là, je l'ai appelé, il souffrira à cause de mon nom. Nous voyons bien la différence qu'il y a entre les manières d'aujourd'hui et la vraie prophétie du Seigneur. Donc, en général, quand on lit la Bible, les prophéties du Seigneur étaient un peu difficiles. Mais ce qu'il pouvait donner directement à quelqu'un était souvent difficile. Quand il a dit à Pierre: quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras mature, quelqu'un d'autre te mettra la ceinture. Il t'amènera où tu ne voudras pas. Il est dit qu'il prévenait Pierre qu'il allait mourir d'une mort difficile. Ça ne veut pas dire que dans la Bible, il n'y a que des prophéties difficiles, mais c'est pour déjà nous faire comprendre que la logique de Dieu, ce n'est pas forcément la logique des hommes. Et nous, aujourd'hui, on ne veut que se dire de bonnes choses. Et beaucoup sont devenus des prophètes du ventre. Ils n'annoncent que des bonnes choses. Comme en anglais, on les appelle des motivation speakers. Donc, ils motivent les gens. Tu seras le premier, tu seras ceci. Tu es béni, tu es l'enfant du ciel. Beaucoup de choses ne sont pas fausses, mais c'est l'atmosphère dans laquelle tout ça est dit. C'est contraire à la parole. Dieu est sérieux. Dieu n'est pas un amuseur. Ce n'est pas un motivation speaker. Ce n'est pas quelqu'un qui est un coach pour motiver les gens. Non, il dit la vérité. Mais ce qui est beau, ce qui est bien, c'est qu'il nous donne la victoire. Il nous annonce la difficulté, mais il nous dit que la victoire nous appartient. Mais il nous dit la vérité. Voilà les tribulations t'attendent. Et Paul savait que les tribulations l'attendaient. De sorte que quand on arrive au chapitre 21, verset 10, il est écrit ceci: comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit: que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Amen. Nous voyons une différence d'attitude. Aujourd'hui, quand les gens ressentent quelque chose de négatif, forcément, il faut chasser ça. Mais là, Paul ne chasse pas ça. Il sait que c'est le Saint-Esprit qui l'avertit. Et donc, quand quelqu'un vient confirmer, il n'y a pas un temps de jeûne et prière, de veiller pour briser ces esprits-là de souffrance, non? Puisque c'était la volonté de Dieu. Donc, nous devons revenir à la parole de Dieu. Examiner la volonté de Dieu pour nous. La volonté de Dieu n'est pas forcément, dormir sur des duvets, comme des nounours, dans, comme on dit, un monde de bisounours. Non, la volonté de Dieu peut être la difficulté, mais la victoire nous appartient. C'est dit que la victoire nous appartient. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Jésus-Christ à la croix dit, tout est accompli. Mais toutefois, nous devons être capables de faire face à l'adversité. Les temps qui viennent vont être des temps difficiles pour les chrétiens. Donc nous ne pouvons pas mentir. Nous ne pouvons pas dire que non, l'année 2018, tu seras ceci prospère. Mais oui, c'est peut-être vrai pour certains, mais d'une manière générale, les années à venir vont être des années difficiles. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que plus nous approchons de la fin, plus l'iniquité augmentera, la méchanceté augmentera. Ça sera de plus en plus difficile d'être chrétien à 100%. Et beaucoup se refroidiront dans leur relation avec Dieu. Voilà les avertissements qui se trouvent dans la parole dans Matthieu 24. Beaucoup vont se refroidir. Il va y avoir des difficultés dans les temps à venir. Mais cependant, comme notre frère Paul, nous ne devons pas craindre ces difficultés. Parce que nous savons que c'est le Saint-Esprit qui nous l'annonce. Et le Saint-Esprit sera avec nous. Et Paul dit, je ne fais pas aucun cas de ma vie. Mon problème, ce n'est pas ma vie. Mon problème, c'est la mission de Dieu. Celui qui craint les difficultés à venir n'est pas dans la volonté de Dieu. N'est pas dans la mission de Dieu. C'est pourquoi il a peur. Mais celui qui est dans son appel, qui est dans son fonctionnement correct avec Dieu, n'a pas peur quand on lui annonce les difficultés à venir. Parce qu'il sait que le Dieu qui l'a envoyé sera avec lui. Il ne cherche pas de fausses prophéties d'encouragement. Parce que là, les gens commencent à dire, Paul ne va pas à Jérusalem. Tu as entendu la prophétie, mais Paul lui-même, l'Esprit aussi, lui avait dit ça. Donc, il n'était pas étonné. Mais il savait que c'était dans la volonté de Dieu. Donc, mon exhortation de ce soir, c'est revenons dans la volonté de Dieu dans notre vie. Quelle est la volonté de Dieu? C'est ça qui est important. Parce que quand tu es dans la volonté de Dieu, même si on t'annonce des tribulations, tu n'as pas peur. Parce que Dieu te donnera la victoire. Parce que Dieu n'échoue jamais. Puisqu'il est avec toi, tu gagneras toujours. Même si les difficultés sont là. Il y a un monsieur qui était veuve, qui a demandé à Jésus d'aller guérir son fils. Hein, dans Luc chapitre 8, il se nomme Jairus. Il dit, Jésus, viens guérir ma fille, elle est mourante. Bien, à un moment donné, Jésus a traîné sur le chemin à cause de la femme qui souffrait de perte de sang. On a dit à Jairus, mais ta fille est morte. C'est trop tard. Mauvaise nouvelle. Ta fille est morte. Mais Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement. C'est ça la différence. Nous, on est prêts à entendre de mauvaises nouvelles, mais notre foi nous donne la victoire sur ces mauvaises nouvelles. On ne doit pas chercher les fausses relations où les gens vont te dire seulement ce que tu aimes entendre, ce que tu vas dans ton sens. On doit accepter des relations de vérité où les gens te disent les choses, même si on te dit que tu es sale par tes pieds, mais il y a de l'eau pour se laver. S'il n'y avait pas de l'eau, d'accord, je vais me laver dans mes pieds. Mais si tu veux seulement entendre les paroles positives des gens qui t'entourent, tu vas mourir parce que les gens te mentiront, ils te flatteront. Et c'est ainsi que le faux pasteur prospère aujourd'hui. Parce que les gens veulent entendre des paroles sucrées. Et à cause de ça, ils se font avoir. Après, ils pleurent. C'est comme si c'est Dieu qui leur a envoyé les faux serviteurs. Non, c'est vous. La Bible dit dans 2 Timothée 4, les gens eux-mêmes se constitueront des docteurs, des faux docteurs, qui vont leur dire ce qu'ils aiment entendre. On va faire les choses avec des amis, avec des gens avec qui on s'entend humainement, mais ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, Paul la connaissait. Alors qu'on lui dit que tu vas souffrir, il dit, je vais y aller quand même. Puisque Dieu me met à cœur d'aller à Jérusalem. Le même Dieu me dit qu'il y aura des difficultés. Et donc je ne vais pas changer. Je vais à Jérusalem. Mais je sais que quand on est avec Dieu, dans sa volonté, il n'y a que la victoire. On ne peut pas dire qu'on est avec Dieu et penser qu'on puisse échouer. Non. On n'a pas besoin que quelqu'un nous prophétise, tu seras le premier. Tu seras... C'est écrit tout ça dans la parole. Ce qui est important, c'est la volonté de Dieu. Paul était sûr de lui parce qu'il était dans la volonté de Dieu. Le psaume 112, verset 7 dit quoi? Le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. On va lire ça, psaume 112, verset 7. Psaume 112, verset 7. Je commence par le verset 6. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. La mémoire du juste subsiste toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant dans l'Éternel. Donc même si on lui annonce sa mort prochaine, il sait que si ce n'est pas de Dieu, ça ne arrivera pas. Il retourne à Dieu, il est dans sa volonté. Et si c'est de Dieu, c'est ce que Paul a dit, je suis prêt à mourir pour lui. Vaut mieux que je meure pour lui, plutôt que je vive sans lui. Et si c'est de Dieu, je suis prêt à mourir. Je mourrai dans la volonté de Dieu, dans la gloire. En mourant dans la volonté de Dieu, je serai beaucoup plus utile qu'en vivant hors de sa volonté. Nous connaissons l'histoire d'Ézéchias, non? Dieu lui dit, c'est le temps de ta mort. Je vais te rappeler. Informe ta famille que tu vas mourir. Ézéchias dit à Dieu, mais pourquoi moi je vais mourir? Parce qu'au moment où Dieu lui demande de mourir, Dieu l'informe qu'il va mourir, en réalité, le royaume d'Ézéchias est devenu stable, riche. Après beaucoup de difficultés, maintenant le royaume est riche et stable. C'est à ce moment-là que Dieu lui dit, maintenant je vais te rappeler. Mais le type dit, mais comment? Maintenant que c'est le moment vraiment de vivre ma royauté à l'aise, c'est là que tu veux me prendre. Souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour toi, Dieu. Dieu dit, ah, si c'est comme ça, ça devient une histoire de souviens-toi de ce que tu as fait pour moi. En réalité, tout ce que nous faisons pour Dieu, c'est par sa grâce. Donc Dieu n'est l'éditeur de personne. Et Dieu dit, bon, pour éviter le problème, je te donne 15 ans encore. Comme ça, tu ne diras pas qu'il y a eu injustice. Je te donne 15 ans. Et dans les 15 ans qu'Ézéchias a fait là, il a produit un enfant qu'on appelle Manassé. Ézéchias, s'il n'avait pas fait cette erreur-là, il serait même meilleur que David. Parce que c'est lui qui avait nettoyé Israël de tous les statues, les impuretés. C'est lui le grand réformateur, Ézéchias. Il a même détruit le serpent que Moïse avait laissé parce que les gens ont commencé à adorer ce serpent. Donc même David n'avait pas touché à ce serpent-là. Ézéchias a détruit tout ça parce qu'il voulait qu'on revienne dans la pureté de l'Éternel. Mais au moment où on veut le rappeler pour qu'il finisse comme un champion sur terre, il dit non, moi je veux vivre encore sur la terre. Et quand il est resté, il a produit un enfant. Et quand il est mort, c'est cet enfant-là qui est devenu roi à sa place. Et cet enfant-là a détruit tout ce que Ézéchias avait fait. Il a ramené Israël dans l'idolâtrie. Donc, c'est pour dire comment, quand on résiste à la volonté de Dieu, ça finit toujours mal. Autant revenir à la volonté de Dieu. Certains diront, mais bon, moi je ne connais pas trop la volonté de Dieu, mais la volonté de Dieu est dans la Bible. Les commandements du Seigneur sont dans sa parole. Est-ce qu'on respecte ce qui est écrit? C'est ça la volonté de Dieu. Bien sûr, il peut y avoir des volontés de Dieu qui ne sont pas écrites. Si tu dois aller en Chine, ça ce n'est pas écrit dans la parole. Mais le Saint-Esprit te parlera. On a bien vu que Paul lui-même avait reçu ça, mais le Saint-Esprit a confirmé par quelqu'un d'autre. Donc si vraiment le Saint-Esprit t'a conduit dans quelque chose, il confirmera par d'autres personnes. Et tu connaîtras clairement la volonté de Dieu. D'une manière ou d'une autre, tu sauras. Et quand tu vas résister, tu sauras que tu as résisté. Donc la volonté de Dieu, je veux dire par là qu'on la connaît. Personne ne peut dire je ne la connais pas. C'est nous qui résistons tout ça. Ne craignons pas les temps à venir. Mais je nous préviens que les temps à venir seront difficiles pour les vrais chrétiens. À nous de nous attacher à la parole, à aimer Jésus de tout notre cœur. Parce que seul l'amour de Jésus en nous nous permettra de tenir. seul Jésus en tant que modèle nous permettra de tenir. Ce ne sont pas les bricolages des humains. C'est Jésus qui est notre producteur de foi. C'est lui notre amour, notre force. Il est tout pour nous. Il faut qu'on s'accroche à lui. Jésus était la force de Paul. Et le Paul a dit, je suis prêt à mourir pour lui, je l'aime beaucoup. Nous devons nous attacher à aimer le Seigneur. C'est ça qui nous donnera la force de tenir dans les temps à venir. Les temps à venir sont difficiles. Que personne ne vous trompe. Et donc ça demandera, comme c'est écrit dans Apocalypse 22, que celui qui est saint se sanctifie davantage. Sanctifier, ce n'est pas seulement arrêter avec le péché, c'est-à-dire vivre pour Dieu. Beaucoup de gens diront, mais moi je ne vole pas, je ne mens pas, je ne pêche pas. Oui, mais est-ce que tu vis pour Dieu ou tu vis pour toi-même? Sanctifier, ça veut dire mise à part. Je vis pour le Seigneur. C'est ça. Que celui qui se sanctifie davantage. Nous devons chercher le Seigneur davantage parce que les jours sont difficiles. Mais nous ne devons pas craindre parce que la victoire nous appartient. La victoire est écrite dans la Bible pour nous déjà à l'avance. Tout est accompli, Jésus-Christ a crié à la croix. Et je me souviens du songe d'un pasteur qui, Dieu lui avait montré, bon, je vais donner l'exemple, je vais utiliser l'image du football, puisque c'est le sport, peut-être que nous connaissons ici, mais c'est un pasteur américain. Dieu lui avait montré le songe sous forme de baseball. Et je traduis ça en football pour qu'on comprenne. Donc c'était un match entre les enfants de Dieu, dans la fin des temps, et les faux chrétiens, enfin les infiltrés, hein, les loups, et le monde des ténèbres. Donc il y avait un camp, les vrais enfants de Dieu, l'autre camp, monde des ténèbres avec les infiltrés. Dès que le match commence, les chrétiens encaissent environ 8 buts, 8-0. Et puis, le songe s'arrête. Donc le pasteur se réveille en tremblant, mais oui, mais on va perdre le match. Mais il demande au Seigneur, mais quelle était la fin du match? Parce que là, tu m'as montré qu'on est mené 8-0, mais la fin du match, c'était quoi? Et le Seigneur va lui répondre, la fin du match se trouve dans ma parole. Voilà. Tu n'as pas besoin qu'on te montre que tu as gagné. Il te l'a déjà dit ici. Dans sa parole, tout est accompli. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il nous l'a déjà dit. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un vienne dire, frère, je vois ceci, cela. Si ça arrive, gloire à Dieu, mais on a déjà la victoire ici, c'est déjà écrit, on en est certain. Que quelqu'un me le dise ou pas, c'est déjà là. À moi de m'attacher à ce qui est écrit. À moi surtout, c'est ça mon exhortation, de chercher à servir le Seigneur dans sa volonté. Nous ne pouvons pas mener une vie de chrétien comme si on était des gens du monde, on mange, on dort comme tout le monde. Non, le chrétien a un objectif. L'apôtre Paul a dit, je ne fais plus aucun cas de ma vie. On a lu ça dans Actes 20-24. Pourvu que j'accomplisse la mission que Dieu m'a confiée. Voilà. Et que j'achève ma course. Il y a une mission que Dieu donne à chaque enfant de Dieu. À nous de discerner de cela et d'entrer dedans. Il a dit, ma mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. C'est ça la mission, contribuer à cela, vivre pour cela. On ne peut pas vivre comme tout le monde, comme les païens, et avoir la vie chrétienne comme une sorte de cours du soir de tennis. Non, la vie chrétienne n'est pas un cours du soir de tennis, c'est une vie totale à 100%. Et quand tu es dans une telle vie totale à 100%, tu n'as pas peur des mauvaises nouvelles, parce que tu sais que Dieu est avec toi. Nous allons prier que le Seigneur nous aide à nous replacer dans sa volonté et à vivre pour lui. À vivre pour lui. Et je demanderai un peu de patience après la prière. Il y a encore deux ou trois chants que les bien-aimés vont chanter, puis une petite exhortation sous forme de sketch que les bien-aimés vont faire, et puis comme ça, ça va creuser encore le ventre pour bien manger tout à l'heure. Prions le Seigneur. Seigneur, nous venons prier, ô Éternel, que tu nous changes, Seigneur, que nous commencions à vivre pour toi et non pas pour nous-mêmes, Seigneur. L'apôtre Paul ne craignait pas la mauvaise nouvelle parce qu'il savait que tu étais avec lui, Seigneur. Il savait que tu allais accomplir ta part de protection. Il savait que même s'il devait mourir, c'était même son avantage. Parce que tout ce que tu veux pour nous est bon pour nous, Seigneur. Nous te remercions pour cet exemple que nous avons en Paul, qui n'a pas cherché à combattre la mauvaise nouvelle. Il l'a accepté, mais en croyant que toi tu es tout puissant pour le préserver de tout mal, pour lui donner une pleine victoire. Seigneur, que nous nous replacions dans ta volonté. Au lieu de bricoler, que nous puissions te servir à 100%. Que nous puissions obéir à ta parole. Au lieu de bricoler, au lieu de nous donner des justifications. Seigneur, là où c'est écrit « Femme, soyez soumise », que nous soyons soumis. Là où c'est écrit « Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église », qu'on applique. Seigneur, là où c'est écrit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », qu'on applique. Là où c'est écrit, Seigneur, soyez attirés par ce qui est humble et non ce qui est élevé, qu'on applique. Là où c'est écrit, Seigneur, considérez les autres comme supérieurs à vous-même, qu'on applique, Seigneur, au lieu de trouver des justifications toujours. Ô Éternel, là où c'est écrit que nous ne nous appartenons pas, c'est à toi que nous appartenons, qu'on applique cela, qu'on te laisse pleinement diriger notre vie. Au nom de Jésus, remplis-nous de ta force et de ta paix. Que nous n'ayons pas peur du lendemain, parce que le lendemain est sous ton contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, gloire à Dieu.